de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir, chers auditeurs, comment allez-vous? Je suis très heureuse de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, le commentaire et d'autres infos, à savoir l'histoire d'aujourd'hui, Mon Indonésie, le magazine culturel, Apprendre l'Indonésien et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme des journaux. Aujourd'hui, on commence par le titre. Le ministère du Tourisme et de l'Économie Créative a invité la communauté de l'investissement social en Indonésie. L'Allemagne prépare 500 millions d'euros après la pandémie. Les entreprises d'État et le groupe de travail national sur la gestion de COVID-19 multiplient les tests gratuits sur Ecovillon. La police australienne arrête le destructeur de la statue du capitaine Cook. La sœur cadette de Kim Jong-un qualifie la Corée du Sud d'ennemi. Des responsables russes et turcs se rencontrent pour discuter de la situation en Libye. Dans la nouvelle normalité, nous voulons être en bonne santé et productifs, a déclaré le président Jokowi. Bon, chers auditeurs, voici le journal en complet. La vice-ministre du Tourisme et de l'Économie Créative, Angela Tanusudibio, a invité la communauté de l'investissement social à participer au développement du secteur du tourisme et de l'économie créative en Indonésie, qu'il a qualifié de prospectif. Dans sa déclaration à Jakarta dimanche, elle a déclaré que le gouvernement ne pouvait pas marcher seul. Le soutien est nécessaire de divers partis, y compris la communauté de l'investissement social, pour encourager le développement du secteur du tourisme et de l'économie créative locale et accroître la capacité commerciale des micro, petites et moyennes entreprises et stimuler les secteurs touchés en reconstruisant un écosystème d'affaires propice. Elle a pris la parole lors de la ASEAN Venture Philanthropy Network Conference 2020 vendredi dernier. Angela a déclaré que la pandémie de COVID-19 a posé un défi à tous les secteurs pour s'adapter afin de survivre. Y compris dans le secteur du tourisme et de l'économie créative, qui est principalement rempli par des micro, petites et moyennes entreprises. Selon lui, l'innovation financière et l'entrepreneuriat tels que le financement participatif, l'investissement philanthropique, les partenariats publics-privés et les entrepreneurs sociaux peuvent être des solutions efficaces pour relever le défi de la nouvelle ère normale. Le gouvernement allemand a approuvé deux plans de relance d'une valeur totale de 880 milliards d'euros pour réduire l'impact du confinement afin de freiner la propagation du coronavirus dans le pays. L'Allemagne, qui était connue comme l'un des pays ayant la plus forte économie d'Europe, se prépare maintenant à faire face à la pire récession de l'histoire depuis la Seconde Guerre mondiale. Auparavant, la chancelière allemande Angela Merkel avait accepté un certain nombre de mesures prises par l'Allemagne pour prévenir la crise de COVID-19 pour l'avenir des jeunes professionnels et pour trouver des travailleurs qualifiés. D'une manière générale, le plan a été approuvé par le cabinet gouvernemental Angela Merkel. Selon un document du gouvernement allemand rapporté par l'agence de presse Reuters dimanche dernier, l'Allemagne prévoit de verser 500 millions d'euros ou l'équivalent de 563 millions de dollars américains pour que les entreprises empêchent l'effondrement en raison de la crise de la pandémie mondiale de coronavirus. Le programme comprend des primes de formation pouvant atteindre 3000 euros pour les petites et moyennes entreprises touchées ou affectées par la pandémie. Les entreprises d'État, ou BUMN, et le groupe de travail national sur la gestion de la COVID-19 ont intensifié leurs efforts pour contrôler la propagation de ce nouveau type d'épidémie de virus corona en augmentant les tests sur les écouvillons gratuits dans un certain nombre de régions d'Indonésie. Le personnel spécial du ministre de BUMN, Arya Sinulinga, dans un communiqué de presse à Jakarta dimanche, a déclaré que la distribution de COVID-19 n'était pas seulement le devoir et la responsabilité des médecins et des ambulanciers, mais que toutes les parties devaient jouer un rôle. Selon lui, les entreprises d'État sont devenues l'une des forces du cercle Pentahelix qui n'a cessé de contenir la propagation de COVID-19 de diverses manières, dont l'une effectuée des tests gratuits sur écouvillons ciblant les zones encore exposées à l'épidémie. Banque Negara Indonesia, ou BNI, l'une des sociétés d'État directement impliquées dans le contrôle de COVID-19, a effectué 30 000 tests sur écouvillons dans plusieurs régions d'Indonésie. Cet effort est une forme d'étape conjointe dans la lutte contre l'épidémie du virus corona en Indonésie, impliquant de nombreuses parties du gouvernement, de la communauté, du monde universitaire, des médias et du pouvoir du monde des affaires, y compris des entreprises publiques comme BNI. La police australienne a déclaré d'avoir arrêté deux femmes après la destruction d'un statue d'un explorateur britannique, James Cook, dimanche matin à Sydney. James Cook était le capitaine d'un navire de l'Ouest qui a atteint la première fois la côte Est de l'Australie. La police de l'État de Nouvelle-Galles du Sud a reçu un rapport sur le graffiti sur la statue de Cook dans la région de Hyde Park, dans le plus grand quartier du centre-ville d'Australie, peu après 4 heures locales, avant d'arrêter finalement deux femmes dans la vingtaine. La police a déclaré dans un communiqué que ces deux femmes avaient été trouvées avec un sac contenant un certain nombre de pots de peinture en aérosol. Ils n'ont pas non plus la possibilité d'être libres en payant une caution et seront accusés d'avoir endommagé et détruit des biens. La sœur cadette du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a menacé de mener une action militaire contre la Corée du Sud en raison de la diminution des relations bilatérales, de l'incapacité de la Corée du Sud à empêcher les militants de diffuser des prospectus anti-Pyongyang à travers la frontière. Kim Yo-jong a décrit la Corée du Sud comme un ennemi. Elle a répété la menace précédente qu'elle avait faite en disant que Séoul allait bientôt assister à l'effondrement du bureau de liaison entre Coréens dans la ville frontalière de Kaesong. Kim Yo-jong est la première directrice adjointe du comité central du Parti travailliste au pouvoir. Elle a déclaré qu'elle remettrait la responsabilité au chef militaire nord-coréen pour prendre la prochaine mesure de répression contre la Corée du Sud. Cela a été dit par Kim Yo-jong dans une déclaration à l'agence officielle de presse centrale de Corée du Nord, comme rapporté par AP News dimanche dernier. La menace de Kim Yo-jong montre son statut élevé dans la direction nord-coréenne. Deux diplomates russes de haut rang se sont rendus à Istanbul dimanche dernier, heure locale. Le plan de présence vise à avoir des entretiens avec des responsables turcs sur la situation en Libye. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, et le ministre de la Défense, Sergei Shoigu, discuteront de la Libye et du cessez-le-feu potentiel en Libye avec le partenaire turc Mevlut Cavusoglu et Hulusi Akar. Cela a été rapporté par CNN turc et le média turc TRT Haber, qui a également déclaré que le ministre avait discuté de la situation en Syrie. La Libye a connu les choses après le meurtre de Muammar Kadhafi lors du soulèvement de 2011. Le président Joko Widodo a mis en ligne une vidéo contenant une explication du nouvel ordre de vie ou ce qui a été communément appelé une nouvelle normalité. Dans son téléchargement, le président a déclaré que toute la communauté lui souhaiterait que la pandémie de COVID-19 se termine bientôt. C'est ce qu'a déclaré le président dans un téléchargement sur le compte Instagram dimanche dernier. À plusieurs reprises, le président a mentionné que la vigilance doit être maintenue jusqu'à ce que le vaccin COVID-19 soit découvert et puisse être largement utilisé par le public. En attendant la découverte du vaccin, a déclaré le président, la vie communautaire doit se poursuivre en adoptant la nouvelle normalité. Dès le début, le gouvernement n'a pas voulu être coincé dans un choix entre la santé ou l'économie. Le gouvernement veut que la santé soit garantie et l'économie fonctionne aussi. C'est tous les journaux d'aujourd'hui.
Chers auditrices et auditeurs, si vous ne vous sentez pas en forme ou bien vous êtes malade, portez le masque pour freiner la propagation du coronavirus. Soutenons le mouvement d'utilisation des masques pour ceux qui sont malades. Et n'oubliez pas de vous laver régulièrement les mains. Espérons que ce problème de coronavirus dans le monde entier sera bientôt terminé.
Voici le commentaire d'aujourd'hui dont le titre est « Les efforts pour trouver des médicaments contre le COVID-19 ». La pandémie du virus corona ou la COVID-19 s'est propagée à plus de 200 pays dans le monde. Selon worldmeters.info, au 14 juin 2020, le nombre de cas d'infection à COVID-19 a atteint plus de 7,8 millions avec plus de 430 000 décès, tandis que le nombre de patients qui ont récupéré plus de 4 millions de personnes. Parmi les cas qui surviennent dans divers pays, 5 pays ont déclaré le plus grand nombre d'infections à virus corona, à savoir les États-Unis, le Brésil, la Russie, l'Inde et le Royaume-Uni. En Indonésie, au 14 juin 2020, le nombre de cas de COVID-19 a atteint plus de 36 000 avec une guérison totale de plus de 4 000 patients et plus de 1 100 personnes sont décédées. On ne peut pas dire que ce nombre soit faible compte tenu du nombre croissant de cas qui augmente chaque jour. Le mercredi 10 juin 2020, le nombre de patients COVID-19 en Indonésie a augmenté de plus de 1 200 personnes. Les efforts du gouvernement pour imposer une variété de politiques allant de distanciation sociale, des restrictions sociales à grande échelle ou PSBB dans certaines régions où le nombre de cas de COVID-19 est élevé, a appelé le public à mettre en œuvre des protocoles de santé ne suffisant pas à contrôler la propagation du virus corona. D'autres méthodes plus efficaces sont nécessaires, à savoir les vaccins et les médicaments COVID-19. Apparemment, les efforts pour trouver un remède contre la COVID-19 se rapprocheront. Après avoir mené diverses recherches, l'équipe de recherche du Centre de recherche et de développement sur les cellules souches de l'Université Erlangga de Surabaya, dans l'est de Java, a trouvé 5 combinaisons de schémas thérapeutiques dérivés de médicaments qui circulaient sur le marché et qui pouvaient être un médicament pour les patients de COVID-19. Des chercheurs de l'Université d'Erlangga, le Dr Purwati, en collaboration avec l'Agence de renseignement d'État, le groupe de travail national sur le COVID-19, continue de mener des recherches pour mettre à jour la recette de guérison de COVID-19. Elle a dit qu'elle menait des recherches sur les schémas de combinaison de médicaments et sur le type efficace des cellules souches. Le régime et la composition du type et de la quantité de médicaments ainsi que la fréquence d'administration du médicament en tant que thérapie de traitement. En effet, Ce n'est pas seulement l'Indonésie qui essaie de trouver des médicaments pour lutter contre le virus corona. Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, cité par CNBC lundi 6 avril 2020, a déclaré que la recherche sur le développement de vaccins et de médicaments pour lutter contre le virus corona avait été accélérée. Selon lui, plus de 70 personnes ont rejoint l'Organisation mondiale de la santé pour des essais de recherche sur un traitement efficace et 20 institutions développent des vaccins. Espérons que les efforts déployés par les chercheurs indonésiens et les chercheurs de divers pays dans le monde peuvent produire des résultats afin que plus de patients COVID-19 puissent être guéris. C'était le commentaire.
Bonsoir à tous, vous êtes toujours avec nous, La Voix de l'Indonésie, et vous êtes avec moi, Audrey. Cette fois-ci, je vous présente la rubrique « L'histoire d'aujourd'hui ». On commence tout de suite avec l'événement du 15 juin 1954. L'UEFA était fondée à Basel, en Suisse. Chers amis, l'Union européenne de football, UEFA, est l'organe administratif et directeur du football européen, bien qu'un certain nombre de membres aient des territoires en Afrique et en Asie. L'UEFA a été fondée le 15 juin 1954 à Bâle, en Suisse. Après des consultations parmi des associations italiennes, françaises et belges, cet organisme est l'une des 6 confédérations continentales de l'Organisme mondial de football de la FIFA. L'UEFA est composée de 54 membres d'associations nationales. L'UEFA est l'une des associations nationales européennes de football organisant des compétitions de clubs et de pays, y compris les championnats d'Europe de l'UEFA, la Ligue des champions de l'UEFA, la Ligue européenne de l'UEFA et la Supercoupe de l'UEFA, régissant tous les règlements, les droits de diffusion des médias et les prix lors de la compétition. Initialement, l'Union européenne de football était composée de 25 membres qui ont doublé au début des années 1990. Passons maintenant à l'événement du 15 juin 2001 sur l'Organisation des coopérations de Shanghai, OCS. Cher ami, l'Organisation de coopération de Shanghai OCS est une organisation internationale dans la région eurasienne qui est rejointe par la République populaire de Chine, la Russie, le Kazakhstan, le Kyrgyzstan, le Tadjikistan et l'Ouzbékistan. L'OCS a été déclarée le 15 juin 2001 après l'adhésion de l'Ouzbékistan. L'organisation vise à renforcer la coopération parmi les pays dans les domaines des frontières, de l'économie et de la culture. Sergio Littar, terminons cette rubrique avec l'événement du 15 juin sur la commémoration de la journée de la dengue de l'ASEAN. Le 15 juin est célébré comme le jour de la dengue de l'ASEAN. La journée de la dengue de l'ASEAN ADD a été conçue lors du 19e sommet à Hanoï, Vietnam. Le 30 octobre 2010 et l'Indonésie est devenu un pionnier dans la commémoration de la journée de la fièvre hémorragique de la dengue de l'ASEAN de 15 juin 2011. Déclaration de Jakarta contre la fièvre hémorragique de la dengue ou bien fièvre de la dengue. a été approuvé par 11 pays de l'ASEAN pour renforcer la coopération régionale et l'engagement dans les efforts de contrôle de la DHF. La dengue hémorragique est une maladie causée par le virus de la dengue transmise à l'homme par la piqûre des moustiques Aedes aegypti et Aedes albopictus. Mon cher Zélitar, c'est tout l'histoire d'aujourd'hui.
Chers auditeurs, c'était la chanson pop indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, émission d'intervention d'urgence de COVID-19. Restez chez vous et suivez les règles de santé. Et voici donc mon Indonésie. Chers auditeurs, bonsoir. Voici mon Indonésie et pour le titre, le gouvernement prépare des mesures de relance supplémentaires pour les industries touchées par une pandémie. le gouvernement prépare des incitations ou des stimulus supplémentaires pour le secteur industriel touché par la pandémie de COVID-19 afin de raviver l'enthousiasme des entreprises, si bien que cela peut encourager les rouages de l'économie nationale en faisant attention aux protocoles de santé. Le ministre de l'Industrie, Agus Gumiwang Kartasasmita, dans sa déclaration à Jakarta jeudi 11 juin, a déclaré que les incitations supplémentaires comprenaient l'allègement de paiement ou des subventions à l'électricité pour les industries touchées par la pandémie de COVID-19. À cet égard, il a envoyé une proposition à la Société nationale d'électricité, ou PLN. Il s'agit d'éliminer le coût minimum d'utilisation de 40 heures de consommation électrique, y compris pour les clients industriels premium qui utilisent de 133 heures de consommation électrique. Cette politique est proposée pour la période de souscription du 1er avril au 31 décembre 2020. Il est prévu que l'industrie puisse payer en accord avec la consommation d'électricité. La quantité de stimulus nécessaire est d'1,85 billion rupiah sur 9 mois. Une autre incitation consiste à reporter le paiement de 50% des factures de PLN pendant 6 mois d'avril à septembre 2020 avec des versements garantis sous forme de dépôt à vous en arrière pendant 12 mois. Il est également proposé d'éliminer la pénalité pour retard de paiement. En outre, le ministre Agus a déclaré: le gouvernement examinait les incitations sous forme de l'élimination de la taxe sur la valeur ajoutée au TVA pour les matières premières locales pour l'exportation, reportant les paiements de la TVA de 90 jours sans amende, ainsi que la libération temporaire des versements d'impôts sur le revenu au WPH. L'octroi d'allègements fiscaux supplémentaires pour le secteur industriel complétera d'autres incitations précédemment accordées par le gouvernement. Le ministre de l'Industrie, Agus Gumiwang, a également proposé une restructuration du crédit et le stimulus du fonds de roulement. Cette incitation sera fournie avec un certain nombre de critères, tels qu'un historique des taxes et des versements de crédit, de bonnes perspectives commerciales, l'absorption de la main-d'œuvre, un fort impact de COVID-19 et la maximisation de l'utilisation des matières premières nationales. Grâce à ces efforts, nous espérons que l'industrie continuera de croître et que l'économie nationale continuera de se maintenir sur une tendance positive. En outre, le gouvernement s'efforce à encourager la consommation sur le marché intérieur en augmentant l'utilisation à travers la mise en œuvre du niveau de la composante intérieure dans les ministères et les institutions ainsi que dans les entreprises publiques. Serge Ritter, c'était mon Indonésie pour ce soir.
Ada sesuatu yang ingin aku katakan kepadamu, matahari jiwaku. Setelah sekian lama kita berdua memadu asmara, kini tiba waktunya ku mengutarakannya padamu. Oh, oh. Padaku
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Chers auditeurs, c'était la deuxième chanson pop indonésienne. Maintenant, nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien. Bonsoir, chers auditeurs. C'est un plaisir de vous rencontrer à nouveau dans le magazine culturel, un programme quotidien sur le tourisme, l'alimentation ainsi que les arts et la culture de diverses régions en Indonésie. Dans l'édition d'aujourd'hui, je vais vous présenter le karst de Sangkulirang Mangkalihat à Kalimantan Est. Le karst de Sangkulirang Mangkalihat est situé à l'est de Kutai, Kalimantan Est. Comme d'autres régions karstiques, Sangkulirang Mangkalihat est entouré de murs escarpés, de grottes souterraines avec les sorties naturelles sculptées et des collines verdoyantes. La beauté du groupe karstique géant s'étend de la résidence de l'est de Kutai à la résidence de Berau. Le complexe du karst Sangkulirang Mangkalihat abrite des dizaines de grottes riches en patrimoine préhistorique. Le complexe karstique atteint 1,8 million d'hectares. Le complexe comprend 550 000 hectares de la principale zone d'écosystème. Selon la recherche, le complexe karstique donne des informations sur les traces d'anciens êtres humains que l'on peut voir à partir de peintures à la main, de peintures de bateaux et de peintures de divers types d'animaux sur les murs. Lors de son exploration, le complexe karstique Sangkulirang Mangkalihat comprend certaines parties sur des dizaines de grottes qui ont une longue couloir avec un encornement naturel et des stalactites et stalagmites étonnantes. Si vous partez de Samarinda, la capitale de Kalimantan Oriental, cela prend environ 8 à 9 heures par transport terrestre. Chers auditeurs, c'était notre programme, le magazine culturel pour aujourd'hui. Merci de votre attention. À demain.
Gadis idamanku, hanya engkau yang satu, hadirlah dalam mimpi-mimpiku. Biar seribu, biar ramai mengganggu, padaku engkaulah ratu. Sejak mula bertemu, kau buat siangku sedingin salju, dan malam jadi hangat sehangat cintamu. Kasihku Rosanna, kau gadis idamanku, dua hati menjadi satu bila kita bertemu. Oh Rosanna, gadis idamanku, bila kan sampainya waktu kasih kita bertemu dalam cinta Rosanna. Kau buat siangku sedingin salju, dan malam jadi hangat sehangat cintamu, kasihku. Oh Rosanna, kau gadis idamanku, dua hati menjadi satu bila kita bertemu. Rosanna, kau gadis idamanku, bila kan sampainya waktu kasih kita bertemu dalam cinta. Rosanna,
chers auditeurs et auditeurs, si vous ne vous sentez pas en forme ou bien vous êtes malade, portez le masque pour freiner la propagation du coronavirus. Soutenons le mouvement d'utilisation des masques pour ceux qui sont malades. Et n'oubliez pas de vous laver régulièrement les mains. Espérons que ce problème de coronavirus dans le monde entier sera bientôt terminé.
Chers auditeurs, c'était la chanson pop indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, émission d'intervention d'urgence de COVID-19. Restez chez vous et suivez les règles de santé. Pour la rubrique suivante, voici donc apprendre l'indonésien.
Bonsoir à tous, nous continuons notre émission ce soir avec la rubrique apprendre l'indonésien. Un programme qui introduit le vocabulaire de la langue indonésienne et vos guides de parler indonésien. Cette émission est une collaboration entre la Voix d'Indonésie, la station de radiodiffusion à l'étranger de RRI avec l'Agence nationale pour le développement et le renforcement de la langue du ministère de l'Éducation et de la Culture de la République d'Indonésie. Le sujet d'aujourd'hui est « Dia belum pulang ya » en langue française. Il n'est pas encore rentré, n'est-ce pas? Ensuite, je vais donner un exemple de conversation ayant pour titre « Dia belum pulang ya » ou en langue française « Il n'est pas encore rentré, n'est-ce pas ?» Tony et Endah parlent sur le travail.
Mas Joko belum pulang ya?
Ya, dia bilang ada rapat di kantornya.
Dia selalu sibuk sejak menjadi manajer.
Après avoir écouté cette conversation, je vais introduire les expressions et le vocabulaire sur le thème d'aujourd'hui, à savoir « Dia belum pulang ya ?»« Dia belum pulang ya ?» En français, « Il n'est pas encore rentré, n'est-ce pas ?» Je vais prononcer deux fois et vous pouvez répéter après moi. « Mas Joko belum pulang ya ?»« Mas Joko belum pulang ya ?» En français, Mas Joko n'est pas encore rentré à la maison, n'est-ce pas? Dia bilang ada rapat di kantornya. Dia bilang ada rapat di kantornya. En français, il a dit qu'il y avait une réunion dans son bureau. Kantor. Kantor. en français bureau. Manager, manager en français gérant. Dia selalu sibuk sejak menjadi manager. Dia selalu sibuk sejak menjadi manager. En français, il a toujours été occupé depuis qu'il est devenu gérant. Kamu orang Amerika ya? Kamu orang Amerika ya? En français, êtes-vous américain? Minggu depan. Minggu depan. En français, semaine prochaine. Kamu bekerja di perusahaan ya? Kamu bekerja di perusahaan ya? En français, vous travaillez dans une entreprise, n'est-ce pas? Dosen. Dosen. En français, professeur. Kuliah lagi. Kuliah lagi. En français, lecture à nouveau. Harus istirahat. Harus istirahat. En français, devoir se reposer. Si vous savez déjà ou que vous soupçonnez quelque chose, mais que vous voulez en être sûr, vous pouvez ajouter le mot « ya » à la fin de la phrase. Comme dans le dialogue, Enda a dit « Joko belum pulang ya ?»« Joko belum pulang ya ?» En français, « Joko n'est pas encore rentré, n'est-ce pas ?» Enda savait ou devinait simplement que Joko n'était pas encore rentré à la maison. Il a demandé à Tony seulement pour être sûr. Les autres exemples. Kamu orang Amerika ya? Kamu orang Amerika ya? En français, vous êtes américain, n'est-ce pas? Kamu akan ke Indonesia minggu depan ya? Kamu akan ke Indonesia minggu depan ya? En français, tu vas en Indonésie la semaine prochaine, n'est-ce pas? Kamu bekerja di perusahaan asing ya? Kamu bekerja di perusahaan asing ya? En français, vous travaillez dans une société étrangère, n'est-ce pas? De telles phrases ne sont utilisées que dans la conversation. Les autres exemples, Joko belum pulang ya? Joko belum pulang ya? En français, Joko n'est pas encore rentré, n'est-ce pas? Ya, dia bilang ada rapat di kantornya. Ya, dia bilang ada rapat di kantornya. En français, oui, il a dit qu'il y avait une réunion dans son bureau. L'autre exemple de dia bilang ou il a dit que pour les phrases en direct dans une variété informelle est uniquement utilisé dans la conversation. Exemple, Tony bilang dia bekerja sebagai teller di bank. Tony bilang dia bekerja sebagai teller di bank. En français, Tony a dit qu'il travaillait comme cashier à la banque. Dinda bilang, dia ingin jadi dosen. Dinda bilang, dia ingin jadi dosen. En français, Dinda a dit, elle veut être professeur. En notre exemple de variété formelle, atasan saya mengatakan, saya harus kuliah lagi. Atasan saya mengatakan, saya harus kuliah lagi. En français, mon patron a dit que je devais retourner au collège. Dokter mengatakan bahwa saya harus istirahat. Dokter mengatakan bahwa saya harus istirahat. En français, le médecin a dit que je devais me reposer. Chers auditeurs, avant de terminer apprendre l'indonésien aujourd'hui, pour plus de détails, écoutons l'exemple de la conversation encore une fois.
Mas Joko belum pulang ya?
Ya, dia bilang ada rapat di kantornya.
Dia selalu sibuk sejak menjadi manajer.
Chers amis, c'était la rubrique Apprendre l'indonésien pour ce soir. Que cette rubrique soit utile pour vous qui voulez connaître davantage la langue indonésienne. Rendez-vous demain avec un autre sujet plus intéressant. Merci d'être fidèle avec nous. Au revoir.
berjanji bersama selamanya. Hati telah terikat, sepasang mata memikat, melambungkan asmara yang selalu meminta mengulur senja menanti datang sang pemilik hati. Rela menanti sejak terbit mentari, tak sabar untuk berbagi segala isi di hati. Ceriakan sanubari dan bercumbu di ujung hari. Indahnya kisah kasih kita di masa remaja, di bawah rayu senja kita di madu bermanja. Tiada masa-masa yang lebih indah dari masa remaja. Seakan dunia milik berdua, hati terasa merindu tanpa rasa duka. Berkumandang merdu senandung asmara kepada yang tercinta. Nada-nada tercinta genggam pesona jiwa.
Of Indonesia.
Kau sebut cinta, tak mungkin bisa melukai. Yakinku juga begitu. Kau sebut cinta hanya bisa saling menjaga, menjaga hati agar bahagia. Cinta takkan pernah sanggup untuk menyakiti. Berjalanlah cerita tentang Adam dan Hawa.
cinta.
Chers auditeurs, c'était la dernière chanson pop indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, émission d'intervention d'urgence de COVID-19 sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voice.id. Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec les informations musicales.
ganti hari esok. Pojok dan sinar budaya, budaya cita prasmi yang kan abadi. Hanya padamu ku sampaikan sekenggam.
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, émission d'intervention d'urgence de COVID-19. Restez chez vous et suivez les règles de santé. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.